À tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale des antennes de Principe Actif et de HDR. Ce matin, nous parlerons art, mais nous parlerons aussi transmission de ces notions artistiques, car cette émission n'est pas faite des studios aujourd'hui, elle est enregistrée hier, ouais merci pour le petit voyage dans le temps, elle est enregistrée hier à l'association du parc, et pour m'accompagner dans cette émission, j'aurai deux journalistes d'exception, à savoir Maïlis et Merola. Bonjour Maïlis, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien.
Bon, parfait, t'as bien préparé tes questions, juste les questions.
Oui.
Voilà, on est à peu près au point. Et juste à côté de toi, c'est Merola qui aura aussi bossé sur ses interviews. Ça va Merola?
Oui, et toi?
Eh ben merci, très bien. C'est plutôt sympa, on me demande à chaque fois si ça va bien. Merci beaucoup, ça va bien. Pour préparer cette émission, vous avez réalisé des micro-trottoirs que nous écouterons un petit peu plus tard lors de l'inauguration de l'exposition dont nous allons parler aujourd'hui justement. Et également, vous serez à la question. Du bon son, de la bonne humeur, des bons plans, notre chroniqueuse Sceaux que nous retrouvons durant cette émission, vous l'aurez compris, c'est la recette du pire reste à venir.
C'est l'or, il est l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
J'ai connu l'échec, la débauche et la dèche. J'ai connu les remarques que l'on fait sur mon sexe. J'ai connu des types bien et des types qui agressent. Je connais pas l'injustice d'un délit de faciès. J'ai appris des leçons de vie dans mes erreurs de jeunesse. Et j'en ferai encore, j'ai pas l'âge de la sagesse. Je cours après le bonheur, je prends de la vitesse vers la paix intérieure, c'est ça mon Everest. Anxiété m'appelle, j'ai peur de l'avenir. Peur des discours de haine faits avec le sourire. De la montée des extrêmes et celle des océans, de la nature humaine qui tue le vivant. Je sais pas si je veux des gosses, je sais pas si je serai une bonne mère. D'abord faudrait que je sache quel est mon rôle sur la terre. La mienne avait un boss qu'on appelle patriarcat. Elle a élevé 4 gosses, ramené un salaire chaque mois. J'aime parler féminisme avec une meute de mal alpha. Combien de filles vont courir et ne reviendront pas? Mes copines n'écoutent plus les rappeurs misogynes. Elles me disent à chaque fois, fais un feat avec Youssoupha.
Même sinon qui le fera plus que moi. Plus que moi. Qui le fera plus que moi. Plus que moi.
J'ai connu le minimum, maman n'avait pas le bras long. J'ai connu les hommes, j'ai pas connu mon daron. Mon enfance radieuse, belle comme un piano voix. J'ai connu des adieux qui à la base n'étaient qu'un au revoir. J'ai connu les maîtres de cérémonie dans les HLM. On était des alcooliques anonymes avant d'être célèbres. J'ai connu ceux qui m'ont aimé tant que j'avais des problèmes. Et j'ai connu ceux qui m'ont insulté pour que je progresse. Trop promesses. Y'avait pas beaucoup de saveurs, y'avait pas beaucoup de faveurs. Génération Sangoku, Mylène Farmer. Mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée. Elles me voient en homme déconstruit, je suis encore un homme en chantier. Yeah. Et ouais ma sœur, t'es une resta. Ne cherche pas à devenir l'égal d'un homme, tu vaux mieux que ça. Mes copines disent que c'est le monde qui est misogyne. Et peut-être que ça suffira pas de faire un feat avec Youssoupha.
Oui,
Ouais, salut la matinale.
Ah, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, like, moi, bête, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour, ce message est pour le répondeur des matinales sur Principe Actif. Alors, si les jardins d'Iton recherchent des nouveaux adhérents à La Bonne Ville sur Iton, pour venir jardiner, avoir une parcelle à vous, écouter le chant des petits oiseaux, discuter, partager, les jardins d'Iton vous ouvrent leurs portes. Vous pouvez vous renseigner auprès de Marc Le Priol au 06 14 60 30 26, 06 14 60 30 26. Et merci encore aux répondeurs des matinales de Principe Actif. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.
Exposition, dessin, sculpture, photographie, Marie de Guingamp, Alfonso Fernandez et Nora Legac, le 4 et 5 avril de 10h à 18h à Francheville 2760, salle des associations, place Modeste Leroy.
Et pour attaquer cette émission, c'est Maïlis et Merola que nous retrouvons à la question. C'est Émile Orange, un artiste qui est en résidence sur le sud du département de l'Eure, que vous avez au micro. Maïlis, eh ben, je te propose de commencer cette interview avec Émile. Bonjour Émile, hein, commençons par ça.
Bonjour.
C'est à toi, Maïlis.
Travaillez-vous tout seul ?
Alors, ça dépend, mais habituellement, ça m'arrive de travailler tout seul, notamment pour ma peinture. Mais là, ce qui m'amène dans la région, je le fais pas tout seul. Et j'en suis bien heureux parce que je travaille avec deux écoles primaires, celle des Baux-de-Breteuil et de Bémécourt. Et donc là, je suis un peu la petite main qui initie un peu les ateliers. Et après, je fais confiance à tous mes joyeux partenaires pour faire des belles choses.
Trop cool. Où est-ce que vous exposez vos œuvres ?
Alors, elles étaient à la médiathèque Le Kiosque. J'avais deux peintures et un grand tapis exposé là-bas pendant tout le mois de mars. Et habituellement, j'expose aussi de la peinture dans des galeries, dans des centres culturels, dans des médiathèques aussi, dans plein d'endroits différents.
Et pour vos œuvres, est-ce que vous les exposez autre part que la Normandie ? Par exemple, en Île-de-France ou je sais pas.
Ouais, ça m'arrive là de plus en plus et je suis content de ça parce que c'est difficile aussi de sortir un peu de sa région, d'avoir des contrats un peu ailleurs, de se faire repérer aussi dans d'autres régions. Mais ouais, de plus en plus là, je sors de Normandie et ça m'amène de temps en temps à Paris, un peu tout autour de la région. Je suis pas encore dans toute la France. J'espère pouvoir montrer mon travail un peu partout, mais ça met du temps. Et peut-être à l'international aussi un jour, peut-être. Qui sait ?
Et est-ce que vous arrivez à vivre de votre art ?
Eh ouais, là je suis content, ça fait 2 ans. Maintenant que je suis indépendant, donc j'arrive à vraiment vivre uniquement de mes projets artistiques. Avant, j'ai travaillé en tant que médiateur culturel dans un musée qui s'appelle le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Et après mes études, j'ai dû travailler peut-être 4 ou 5 ans. Et en parallèle, je continuais toujours de produire mes œuvres dans mon atelier. Et au bout d'un moment, je me suis senti prêt et assez confiant et solide pour me lancer dans l'aventure d'être à 100% artiste-auteur. Et donc là, ouais, je vis que de mes projets. Donc surtout des projets que je fais avec des collectivités ou avec des centres d'art, des choses comme ça, ouais.
Vous avez des métiers à côté ?
Eh ben non, maintenant je fais vraiment que ça. Donc j'ai mon atelier, donc c'est mon métier. Et après, être artiste, ça demande d'avoir beaucoup de casquettes différentes, donc de savoir faire pas mal de choses différentes. Mais j'ai mon atelier dans lequel je fais ma peinture, je fais mes différents projets, donc je crée des tapis aussi. Voilà, je fais tout ce qui est nécessaire pour continuer à faire tous mes projets, mais j'ai pas besoin de travailler ailleurs pour gagner de l'argent. Donc ça, je suis content. C'est un soulagement aussi, mais voilà, c'est une autre pression aussi d'être indépendant. Mais je suis fier de ça en tout cas.
Ça fait combien de temps que vous êtes artiste ?
Alors, être artiste, à quel moment on peut savoir à quel moment on l'est pour soi, pour les autres? C'est un peu compliqué. Je dirais qu'à déjà à 8 ans, je me considérais un peu comme, comme artiste, mais parce que j'adorais ça. Et après, j'ai fait mes études, en, mes études supérieures où j'étais aux Beaux-Arts. Donc, est-ce que là, on commence à être artiste? Sûrement. Mais après, quand j'ai commencé à avoir mon statut de, d'artiste-auteur, c'est peut-être à ce moment-là où la société peut dire que je suis artiste, et encore que. Mais on va dire que ça fait depuis la sortie de, des Beaux-Arts, donc en 2017, que je suis artiste, on va dire.
Ouais.
Sur quelle dimension vous travaillez ?
Dimension, est-ce que tu peux me
préciser ? Par exemple, sur les tableaux.
Ah, les tableaux, il y a plein de dimensions différentes, de formats, on parle de formats aussi. Je peins des petits formats là en ce moment sur bois, bois brut et tout, j'aime bien. Sinon j'ai fait des grands formats, le plus grand je pense que c'était 2 mètres sur 2. Ouais, en une toile c'est 2 mètres sur 2, sinon habituellement on va dire que je fais des tableaux d'un mètre 50 ou 1 mètre 20 sur 1 mètre, un truc comme ça je pense.
Et sur tapisserie, c'est ça aussi en dimension, vous travaillez
ouais.
Comment
les tapis, c'est souvent mon format que de prédilection, que j'apprécie le plus, c'est celui qui est adapté à mon cadre, et du coup c'est des tapis qui font 1m50 sur 1m50. Donc c'est ce qui me permet de travailler assez librement avec plusieurs enfants ou un groupe assez conséquent sur un grand tissu, et après ça donne un tapis qui est aussi chouette à découvrir et sur lequel on peut vraiment s'asseoir et s'allonger, pas trop petit ni trop grand.
Pour vous, que représente le dessin?
Le dessin, c'est une zone un peu de liberté, hein, le dessin. On en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais le dessin, c'est une manière de s'exprimer autrement qu'avec des mots. Ça permet de sortir des choses aussi au fond de nous. Ça me permet de parler aux autres, de raconter des histoires, de m'amuser. Le dessin, c'est beaucoup de choses. C'est aussi un peu une sorte de méditation aussi. Moi, je l'ai très vite ressenti comme ça quand j'étais enfant. C'était ma petite bulle à moi où je me posais à un endroit, je dessinais. Et voilà, il me fallait peu d'autres choses.
Comment l'art s'est attaché à vous ?
Ah, il s'est attaché à moi d'une manière... C'est très poétique hein, comme question. Je pense que par transmission aussi, mes parents m'ont très vite soutenu dans mes démarches artistiques, dans mes envies d'expérimentation, en peinture, en dessin, dehors, dans la nature, à observer, tout ça. Je pense que c'est une sensibilité déjà... De s'ouvrir à l'art, mais tout le monde peut y accéder, donc l'art je pense qu'elle est un peu en nous, suffit de lui laisser un peu de place, donc voilà, je pense que je lui ai laissé beaucoup de place et on m'a permis de laisser beaucoup de place à l'art aussi.
Et quelle était votre toute première œuvre?
Ma toute première œuvre quand j'étais en maternelle ou
si vous avez le souvenir hein, mais
sûrement une empreinte de pied ou de main, un gribouillage sur un mur, mais sinon ma toute première œuvre en sortie d'études ou au Beaux-Arts, c'est compliqué, c'est intéressant, je sais pas, ou celle dont je me souviens le plus en peinture, je me souviens avoir commencé à peindre sur une toile tendue sur un châssis que j'avais fabriqué moi-même. Et je me suis amusé à peindre des surfaces lisses. Et, en fait, j'avais posé mon pinceau pour travailler sur une zone et j'avais passé une après-midi à peindre la même zone. Et à un moment, le prof était venu me dire « Mais tu sais, tu peux peindre ailleurs aussi. » Et en fait, j'avais été absorbé juste par la tension, le rebond de la toile, comment la matière s'étalait sur la toile et tout ça. Et c'est plus une sensation, ouais, de ma première peinture sur toile. C'était assez magique. Je me souviens avoir été un peu envoûté par ça. Mais je vais y réfléchir. Je vais essayer de me souvenir de l'œuvre la plus ancienne. Peut-être, comment elle s'appelle, Mimi la petite souris en maternelle, ou des choses comme ça qui restent. Ou l'éléphant avec tous ses carrés de couleurs. Elmer. Elmer.
Je connais. Vous en avez fait combien des œuvres à peu près?
J'en ai fait combien? Waouh. Est-ce que en peinture ça se compte en, je pense, en centaines maintenant? En tapis, là depuis 4-5 ans, je pense que j'en ai bien fait une trentaine. Ouais, peut-être même plus, hein. Donc ça commence à faire. Et j'espère en faire encore des milliers.
Lorsque nous préparions cette émission, on s'est posé des questions sur les influences et on s'est dit Nouvelle-Calédonie, Paris, Québec, Prague, Cherbourg. Qu'est-ce qu'il y a de vos voyages dans vos œuvres ?
Alors, la Nouvelle-Calédonie, j'y suis pas allé, mais c'était la Polynésie.
La Polynésie, pardon, ouais. La Polynésie. Ouais,
ouais. Non, pas de souci, j'espère pouvoir aller en Nouvelle-Calédonie aussi, ça doit être magnifique. Mais tout ce qui me reste de ces voyages, c'est la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de rencontres, de lumières.
Et on retrouve ça dans vos œuvres, justement. Enfin, il y a une influence du voyage dans les œuvres.
Ouais, surtout dans ma peinture, ouais, complètement. Je peins mon quotidien, enfin en tout cas les moments où j'aime bien dire ça, en échappée, où je suis en voyage, donc où le quotidien est un peu bouleversé par de nouveau une nouveauté à chaque coin de rue. Et donc j'aime bien prendre des photos aussi de tous ces voyages, donc il y a beaucoup d'images qu'on peut considérer comme étant amateur, hein. Je suis pas photographe, mais j'aime beaucoup par nostalgie garder un peu des images de mes voyages, et au travers de ma peinture j'y vois des moments de poésie dans ces voyages, dans ces moments de vie. Ça met aussi en avant des questions générationnelles. Je suis en contact avec un peu l'histoire aussi de ces régions que je découvre. Souvent, il y a des gens de ma famille ou il y a mes proches qui sont dans ces mêmes lieux que je côtoie, que je photographie. Donc ouais, c'est un peu une expérience de la vie, quoi. C'est essayer de s'ouvrir, de la curiosité. C'est une grande carte à découvrir, donc ouais, c'est tout ça mes voyages.
Du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel ?
Alors pour ma peinture, c'est de la peinture à l'huile. Donc ça, c'est très chouette aussi, la peinture à l'huile. Avant, j'étais à l'acrylique, mais ça sèche vite. Et c'est de la peinture qui se dilue à l'eau, la peinture acrylique. Maintenant, à l'huile, c'est du coup d'où son nom. C'est de la peinture qui se dilue avec de l'huile de lin ou de la térébenthine aussi, mais ça donne mal à la tête, ça. Donc j'évite de l'utiliser. Mais c'est de la peinture à l'huile avec des pinceaux. Et sinon, là, plus récemment... Enfin, aussi avant, j'utilisais de la bombe de peinture, comme pour des graphes. Ça me permettait... souvent, j'utilisais de la bombe avec des pigments fluo, ça me permet d'avoir des aplats, des zones de couleur bien franches sur mes toiles. Et là, plus récemment, j'ai fait l'acquisition d'un aérographe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une sorte de petit stylo qui est relié à un compresseur d'air, et qui permet d'envoyer de l'air à haute pression. Et donc ça fait comme une bombe, mais beaucoup plus précis. Et donc je peux mettre de l'encre dedans, et ça me permet de... On utilise ça pour faire de la peinture de miniature. Vous connaissez les Warhammer ou les choses comme ça, toutes les petites figurines, on peut les peindre avec ça, mais aussi on peut peindre des toiles avec. Et donc moi, je peins mes toiles avec ça, et ça fait des flous, ça permet de rajouter du dessin, ça permet de trouver des nouvelles manières de représenter les choses, ça enrichit un peu la manière dont on va observer un peu ma peinture. J'essaie que les gens s'ennuient pas devant ma peinture, et du coup ça passe par avoir une diversité de gestes, de techniques aussi sur la toile.
pardon.
Et peut-être si je peux rajouter, pour les tapis, c'est du tufting. C'est un peu à la mode en ce moment. Et donc le tufting, c'est une machine qui vient de l'industrie et c'est une machine qui ressemble un peu à une perceuse et qui permet de broder mécaniquement. Donc c'est trop cool, c'est avec de la laine, ça permet de créer ses tapis soi-même à la maison. Et là, on en voit beaucoup sur les réseaux, ça se popularise, c'est un peu le nouveau do it yourself.
Combien de temps vous faut-il pour réaliser une œuvre ?
Alors, en peinture, ça peut aller de quelques heures à un mois. En tapis, c'est une semaine pour un tapis de 1m50 sur 1m50. À peu près une semaine.
Comment vous vous sentez pendant que vous faites l'œuvre ? Pendant que vous dessinez ou faites du tufting ?
Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent parce que ça peut être de la joie, mais il y a beaucoup de frustration aussi. Parce qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on aimerait obtenir comme résultat. Donc c'est beaucoup de réflexion aussi. Donc je me pose souvent devant ma toile et je me creuse la tête à dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment, par quel biais y arriver ? C'est beaucoup de choses que j'efface, que je recommence. C'est aussi une manière qui est assez folle et que je pense que je ressentais déjà quand j'étais enfant, quand je parle de méditation. Je peux passer 4-5 heures debout face à ma peinture ou face à mon tissu que je suis en train de tufter et oublier que bah il faut que je boive, il faut que je mange et du coup je sors un peu, quand j'arrête de travailler, je sors un peu de cet état de stase et j'ai un peu la tête qui tourne, je vois au ralenti et là tout mon corps se réveille et hop, je peux retourner un peu dans la réalité quoi. Mais c'est super intéressant de trouver ces états comme ça, mentaux aussi, dans lesquels on peut se mettre. C'est important, c'est chouette.
Pourquoi utilisez-vous la tapisserie comme pratique dans vos œuvres ?
Alors, la tapisserie, ça arrivait, pour être précis, en 2022. J'ai découvert cette technique grâce à ma compagne, qui elle aussi est artiste et qui travaille le tissu. Et donc, on a fait l'acquisition d'une tufteuse parce qu'on avait envie de tester. Et au même moment, j'étais encore médiateur au FRAC. Et le FRAC m'a proposé de faire une résidence avec la petite enfance. C'est le programme Babil et ils cherchaient un artiste qui soit à l'aise avec ce public là qui est pas forcément évident, et ils ont bien vu que pendant mes visites j'étais très à l'aise et j'encadrais déjà des tout petits et tout ça, et de mon expérience personnelle, ma mère est auxiliaire assistante maternelle, donc je suis très à l'aise avec la petite enfance. Et donc par ce biais-là, par cette résidence, j'ai commencé à faire du dessin et de la peinture avec des tout petits. Et cette technique-là était trop cool, le tufting, parce que ça me permet de aller un petit peu plus loin et de transformer, de valoriser un peu la créativité des enfants et de transformer leurs dessins, tous leurs choix, leurs gestes en tapis et de faire une surface super accueillante et trop chouette. Donc le tufting, c'est arrivé de cette manière-là, grâce d'une part à des échanges que j'ai avec mes proches et avec la proposition de résidence que le FRAC m'a faite. Voilà.
Est-ce que vous créez selon vos émotions ?
Ouais, ça arrive. Je suis très cérébral quand même. Les émotions, elles arrivent pendant mes voyages, quand je décide de capturer telle ou telle image. Quand je travaille, c'est plus une réflexion, c'est plus essayer de comprendre ce que j'ai envie de raconter du monde, ce que l'image que je vais peindre va transmettre comme émotion aux gens qui vont la voir. Sinon, je suis pas dans. Si, peut-être que si, je suis quand même traversé par des émotions. Je pense que sur un mois, il y a plein d'émotions qui peuvent se mélanger sur une même toile. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est quand je tufte, quand je peins, et que je reprends mon travail le lendemain ou deux jours après, et que j'écoute de la musique ou j'écoute des podcasts, et quand je retravaille à un endroit précis, Ouais, j'ai un lien direct avec ce que j'écoutais au moment où je travaillais sur cette zone. Donc j'ai des flashbacks comme ça, d'émotions, de ressentis que j'ai ressentis des jours avant. Donc c'est assez intéressant, c'est des choses que je questionne encore, que j'apprends un peu à étudier, quoi.
Pourquoi ces paysages chelous ?
Chelous, c'est vrai qu'ils sont un peu louches, hein, ces paysages. Ils sont... Souvent, c'est la végétation qui est un peu louche, parce que la végétation, c'est très dense, il y a beaucoup de mouvements, ça vit, ça transpire, ça absorbe. Donc souvent, bah, si tu parles des paysages qu'il y a en plus à la médiathèque en ce moment, enfin, du coup, hier, il y a une végétation qui bouge un peu. Et les couleurs que j'utilise aussi, ça transforme un petit peu l'image de base. On quitte la réalité, même si c'est figuratif, donc on reconnaît ce qui est peint. On met un pied dans l'onirique, un peu dans le monde du rêve, un peu. On rentre dans mes émotions aussi. Je pense que les couleurs que je choisis de peindre, elles viennent de ma sensibilité, et qu'elles peuvent se retrouver, un peu trouver écho dans la sensibilité des autres gens. Et j'aime bien voir un peu comment les personnes qui regardent mon travail, comment ils ressentent aussi, comment, tu vois, toi tu trouves que les paysages sont bizarres, et moi ça m'intéresse de voir ce que tu y vois.
Juste avant de retrouver la deuxième partie avec toujours Émile Orange pour échanger, Amandine de la FRAC, et puis des élèves de l'école de Bémécourt qui auront travaillé avec Émile, je vous propose une courte pause musicale.